Mon coin de nature. Une rencontre en terre d'Occitanie avec Éric Leclerc.
Frère François, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici à l'abbaye Notre-Dame de Maïlis, dans le diocèse d'Aire et de Dax. Vous êtes père abbaye. C'est en 1946 que la communauté des moines bénédictins olivétains s'est implantée.
Très bien, oui, ici. Avant, quelques années avant, il y avait ici ce qu'on appelait des prêtres missionnaires diocésains. Donc des prêtres diocésains qui prêchaient des missions, des retraites ambulantes. Et parmi eux, il y en a deux ou trois qui ont pensé avoir une vocation monastique. Donc, ils sont allés se former à la maison mère des Olivetins, à Monte Oliveto, près de Sienne, en Italie. Et on les a renvoyés en 1936. Ils sont installés près d'Agen, Notre-Dame de Tourtarelle, à côté du foyer de charité de la CEPED. Et donc, ils ont commencé là, une vie monastique ici. Et en 1946, l'évêque d'ici leur a écrit en disant « Les missionnaires diocésains qui étaient à Maïlis, je les retire pour les mettre à Buglose, si vous voulez, on vous cède les locaux. » Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés en 1946.
Un petit mot sur le nom du village où vous êtes. Quelle est son origine?
Ça viendrait du gascon, on n'en est pas très sûr. Maï et Lys, Maï qui veut dire la mer. Et le lys, qui est toujours symbole de pureté, de virginité, donc c'est la mère qui est toute pure, c'est la mère qui reste vierge, c'est Marie.
Combien de moines êtes-vous ici?
Alors nous sommes 18 actuellement. Le plus jeune vient d'avoir 40 ans et jusqu'à 78 ans.
Alors vous avez une règle de vie ici, hein?
Ah, mais c'est la règle de Saint-Benoît, oui, bien sûr, oui. Alors, la règle de Saint-Benoît, c'est le moine, selon Saint-Benoît, d'abord, écrivait ça à peu près en l'an 500, mais ça a traversé les siècles jusqu'à maintenant. Donc, ça montre qu'il y a une sagesse et une capacité d'adaptation aux conditions de vie qui est comme un peu exceptionnelle. Le moine bénédictin, il cherche à vivre en présence de Dieu en permanence. J'ai un peu envie de dire une expression que j'aime beaucoup. Il ne cherche pas tant à faire des prières qu'à devenir prière. Voilà, donc ça c'est par toute notre vie, par les moments de prière particulièrement, mais par notre action, notre activité, notre manière d'être, devenir prière. Et alors en communauté, pas en ermite tout seul, mais en communauté.
Alors la journée commence le matin à 5h15.
Le réveil est à 5h15, oui c'est ça, oui. Et puis après ça se déroule.
Comment se déroule la journée ici pour un moine?
C'est des alternances de moments de prière et de moments d'activité. Donc à 5h35, on commence un premier office, l'office des matines. Puis ensuite, il y a une demi-heure, soit on peut prendre le petit déjeuner, faire sa toilette si on ne l'a pas encore faite, etc. Puis ensuite, c'est l'office des laudes qui nous amène jusqu'à... Attendez, l'aude, c'est l'aude 7h, donc jusqu'à 7h30. Et puis on a une bonne heure de ce qu'on appelle la Lectio Divina, donc c'est lire la parole de Dieu et essayer de la transformer en prière. Et ça nous amène à 9h. Donc à 9h commencent les activités, donc chacun un peu les siennes, soit des activités de comptabilité, soit des activités de pratique de travail, ou travail dans les champs, enfin, etc. Au milieu de la journée, le sommet de la journée, l'Eucharistie, donc à 11h45, suivi du repas, suivi d'une petite récréation. On a une demi-heure de temps de détente entre nous, où on plaisante sans fioriture, quoi. C'est pas des choses importantes intellectuelles, c'est simplement l'esprit de famille, quoi, entre nous. Un petit office, et puis le travail peut reprendre de 15h à 18h30, où on a les vêpres à 18h30. Ensuite, à nouveau, trois quarts d'heure de Lectio Divina, plus ou moins, repas. Et puis le soir, à 20h30, on a ce qu'on appelle le chapitre, donc où toute la communauté se réunit et on fait parler un peu ceux qui ont vécu quelque chose d'un peu important dans la journée. Et puis il y a un enseignement du Père Abbé. Et puis les frères se demandent pardon, si on a des choses à se demander pardon. Et puis c'est le dernier office, compli. Et voilà, donc à peu près à 9h30, on peut être couché à 9h30 jusqu'à 5h15.
Et quelle est votre mission dans le diocèse d'Aire et de Dax?
Ah, c'était très bien, très bonne question ça. Les moines sont indépendants, j'ai envie de dire, de l'évêque. En tant que responsabilité, on est autonome. Mais c'est important qu'on participe pleinement à la vie de l'Église locale. Et donc, d'abord, l'évêque a quand même un regard sur la liturgie telle qu'elle est vécue sur place. Et puis, donc, nous sommes insérés dans l'Église locale. Moi, je participe au conseil presbytéral. Il y a un frère du monastère qui fait le lien avec les villages, avec la paroisse. Donc, il n'a pas du tout responsabilité, mais il fait le lien quand il y a besoin de remplacer le curé qui est absent ou quelque chose comme ça. Et puis, souvent, on participe aussi à l'équipe de formation pour les laïcs. On a des enseignements à donner là. Voilà, je crois que... Mais globalement, on est très bien inséré maintenant dans le... À la fois en étant respecté comme communauté monastique et en même temps en participant pleinement à la vie du diocèse.
C'est un grand diocèse. C'est l'équivalent du département des Landes. Hein.
C'est ça, oui, oui. Je crois qu'il y a 400 000 habitants. C'est un des plus grands diocèses au point de vue géographique. Il me semble qu'il y a une cinquantaine de prêtres actifs encore actuellement. Quoi.
Est-ce possible d'assister aux différents offices ?
Ah oui, c'est toujours ouvert à tout le monde. En général, il n'y a pas tellement la queue pour l'office des matines. La messe, un petit peu, il y a combien ? Il y a une vingtaine de personnes en semaine. Et le dimanche, il y a davantage. Mais j'allais dire que notre messe est longue le dimanche, elle dure une heure et demie. Souvent, les gens des environs préfèrent prendre leur voiture et aller plus loin, avoir une messe plus courte que la nôtre, ils la trouvent un peu longue.
Alors, les moines ont également un travail manuel, hein, intellectuel et artistique, ce qui fait des journées bien remplies, j'imagine.
Oui, bah oui, oui. Ouais. Oui, souvent, quand des laïcs viennent en retraite, ils sont étonnés de mesurer le rythme de vie que nous avons, parce que notre activité, elle est découpée par des offices. Il y a 7 offices dans la journée, donc 7 fois, on coupe le travail qu'on est en train de faire pour venir chanter le Seigneur et lui offrir tout ça, et puis on repart, etc. Donc, ça fait des journées bien remplies, oui.
Ça rythme la journée.
Exactement, c'est fait pour, hein. Pour rythmer la journée, et puis pour que régulièrement on se remette en présence de Dieu, pour que ce soit, même le travail devienne prière. Quoi.
Je parle à l'instant de travail manuel. Sur quoi porte-t-il ce travail manuel ?
Alors on a deux grosses activités rémunératrices. On cultive une plante détoxifiante qui purifie le sang, et donc qui a des effets un peu variés, parce que c'est des saletés qui sont dans le sang, qui sont évacuées. En particulier, elle permet de dissoudre les calculs de rénaux. Et donc, plante détoxifiante. Et puis, on fabrique une cire pour l'entretien du bois, une cire encaustique pour l'entretien du bois. Voilà. Et puis après, il y a tous les travaux de la gestion d'un monastère, d'entretien, de nettoyage, de cuisine, etc. Quoi.
Alors, l'accueil est un point important pour les moines, avec l'hôtellerie. C'est un lieu d'accueil des chercheurs de Dieu.
Il y a beaucoup de personnes, hein, oui, qui cherchent Dieu, qui se trouvent que dans la vie de tous les jours, qui est trop stressée, trop rapide, on n'a pas le temps de faire le point. Et donc, ils viennent dans des monastères et qui participent plus ou moins à notre vie liturgique. Certains participent à tout, d'autres ne viennent qu'à un ou deux offices, au choix, quoi. Hein, oui. Mais il y a un besoin de prendre de la distance avec le stress de la vie de tous les jours.
Vous en apercevez au fil des années ?
Oui, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que je crois qu'on mesure que les gens sont de plus en plus écrasés, pas angoissés, mais un peu stressés par le travail, par le rythme de vie, par les tensions au travail, la difficulté en famille. Je crois qu'il me semble qu'on sent que les gens sont plus stressés qu'autrefois. Quoi.
Combien de personnes accueillez-vous chaque année ?
Je ne me souviens pas, je crois avoir entendu me souvenir que c'est dans les 8000 personnes, il me semble bien, mais je ne garantis pas, quoi.
Mon coin de nature, Éric Leclerc.
Alors, pouvez-vous nous décrire, nous présenter le lieu où nous sommes dans une salle, hein, je précise.
Là, ben, nous sommes dans la partie qui est pour l'accueil, réservée pour l'accueil. Donc, il y a un grand parloir où on peut accueillir un groupe d'une vingtaine de personnes, où ils peuvent manger. Là, on est dans une autre salle à manger où, pour une dizaine de personnes. Et puis, il y a trois ou quatre petits parloirs pour recevoir les gens qui viennent parler avec un moine, qui viennent se confesser. Voilà.
Alors, pouvez-vous nous décrire le sanctuaire ? À quoi ressemble-t-il ?
Oui, alors il est juché sur une colline, le sanctuaire Notre-Dame de Maïlis. D'abord, c'est un sanctuaire qui remonte au XIIIe siècle à peu près, donc attitré à Maïlis. Il y a deux églises, une vieille église qui date de cette époque-là, donc XIIIe probablement, qu'on a reconstruite presque complètement en 1980 pour l'année Saint-Benoît, qui est une vieille église romane qu'on a refait dans le style, qui est toute pure, toute simple. Simplement, on est là, mais on est devant Dieu, quoi. Et puis on sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues en pèlerinage, donc les murs sont pétris de prières. Et puis notre grande église, là, elle date de 1950, je crois, 1850, pardon, à peu près. Donc c'est du néo-gothique, mais elle est belle, hein, elle est belle, et elle peut contenir 300, 400 personnes. Voilà. Et on a refait l'intérieur il y a 3 ou 4 ans, peut-être 4 ans, parce que autrefois les moines étaient au fond du chœur et l'assistance, voilà. Et puis entre les deux, il y avait l'autel. Et on avait l'impression qu'il y avait deux assemblées, l'assemblée des moines et l'assemblée des fidèles qui priaient pas complètement ensemble. On trouvait que c'était pas juste par rapport à ce qu'avait voulu Vatican II, qui voulait qu'il y ait une seule assemblée célébrante. Donc on a refait l'intérieur du chœur en poussant l'autel, et les moines sont, j'allais dire, presque au premier rang des fidèles, mais en arc de cercle orienté vers l'autel. Donc c'est très beau. Tous les gens trouvent que ça a beaucoup de cachet, beaucoup de classe. Et nous, en tout cas, ça nous a rapprochés des fidèles. Et maintenant, il y a une seule assemblée qui célèbre.
Et le reste du sanctuaire, à quoi ressemble-t-il ? Il y a des deux églises, donc ?
Il y a les deux églises. Après, bon, donc il y a un grand bâtiment qui était les prêtres missionnaires diocésains. Bon, finalement, on a transformé ce bâtiment en mettant d'autres bâtiments autour, avec les bâtiments d'accueil, la bibliothèque, la sacristie. Puis finalement, on a délimité un cloître. Et puis, sous nos fenêtres, ben, on a un potager qu'on a relancé il y a 3 ou 4 ans, simplement, après l'encyclique Laudato Si. Donc, qui actuellement nous prend, et pour nous, c'est symbolique, quoi. Enfin, il y a un désir de conversion écologique que la communauté est en train de reprendre, qui est très importante. Et puis après, il y a des champs tout autour, soit pour cultiver notre plante, soit pour d'autres, oui, puisqu'on fait un peu de d'épeautre, un peu de sarrasin. Là, on a planté du tournesol, un petit peu comme ça, voilà.
Et puis vous organisez des retraites, on en a dit quelques mots tout à l'heure.
Alors ben oui, c'est ça, donc il y a les gens ont besoin de ça. Donc en fait, il y a des gens qui viennent individuellement, souvent pour un week-end ou pour une journée ou quelques jours. Et puis on organise deux retraites pour les jeunes. Une entre Noël et Jour de l'An, c'est ce qu'on appelle une école de prière sur 3 jours pour apprendre aux jeunes à prier, à faire oraison davantage. Et puis fin juillet, on a une autre pour les jeunes de 25-35 ans, je crois, ou 20-35 ans, pour faire le point, un peu faire le point de leur vie et essayer de prendre le cap, un peu donner le sens à leur vie, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont donné comme sens à leur vie et puis s'orienter pour lancer leur vie future.
C'est faire le point jeune, pro et étudiant.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis on avait une session en août pour une session biblique, où on prenait un thème, et puis il y avait plusieurs frères qui intervenaient, qui prenaient une journée chacun, et développaient un passage biblique correspondant à ce thème-là. Mais là, comme on a des absents au niveau des frères, pour l'instant, depuis 2 ans, et avec le Covid, on n'a pas repris, mais ça reprendra après, quoi.
Un des points auxquels vous tenez, c'est la conversion écologique. C'est un travail qui a été fait depuis plusieurs années.
Ben c'est l'encyclique Laudato aussi qui nous a lancé là-dessus. Moi, je cherchais quelque chose pour relancer, redonner un second souffle à la communauté. Je trouvais que ça piétinait un peu, j'avais pas d'idée. Puis quand Laudato Si est arrivé, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose pour nous. il y a un message pour nous. Donc je l'ai commenté longuement aux frères, et les frères étaient d'accord. Il y a quelque chose pour nous, mais on ne sait pas très bien quoi. Alors on a commencé par faire un travail d'écologie au point de vue de la culture de notre plante. On est devenu davantage écologique, davantage bio, et maintenant on l'est complètement. Mais à travers ça, ça a changé notre regard d'abord sur notre plante, mais aussi on a fait des sessions avec des écologistes qui nous ont sensibilisés que l'écologie, ce n'est pas simplement la nature, mais c'est les relations. C'est ça l'écologie intégrale, c'est les relations. Donc il y a la relation à la nature, d'accord, mais il y a la relation aux autres, donc aux frères de la communauté ou à l'environnement, la relation à Dieu et la relation à soi. Et donc c'est ça l'écologie intégrale. Et en fait, pour aborder cette conversion, en fait, on s'est fait aider par des coachs qui nous ont aidés à nous poser des bonnes questions et nous donner des méthodes pour essayer d'y répondre. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de davantage communiquer entre nous. Parce qu'on était un peu chacun le nez dans le guidon, avec chacun sa tâche, son truc, mais sans
au quotidien.
Au quotidien, oui, c'est ça. Sans trop savoir ce que faisaient tous les autres. Donc on a établi un peu des réunions communautaires avec davantage de discussions et de dialogues entre nous, et amélioré la qualité de dialogue. Et ça a transformé le climat de la communauté, et qui est plus fraternel, qui est plus à l'écoute les uns des autres. Mais si on est plus à l'écoute les uns des autres, on est plus détendu. Et donc, quand on va au cœur, on est plus paisible et plus réceptif à Dieu. Et du coup, ça nous a amené aussi à privilégier, défendre des espaces de gratuité pour avoir, dans notre vie quotidienne, pour que Dieu puisse avoir des places gratuites pour lui. En plus, de pas tout le temps obligatoire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais des moments de gratuité où on puisse louer Dieu d'une manière plus spontanée. Donc prévoir des moments un peu comme ça. Et puis dans notre communication les uns aux autres, on s'est rendu compte qu'on pouvait maintenant être davantage vulnérables les uns devant les autres, et donc accepter d'avoir des pauvretés, d'avoir des faiblesses. Donc c'est notre regard sur notre relation à nous-mêmes qui change aussi. Donc vous voyez qu'on a démarré à la relation à la nature, on en est venu à la relation les uns aux autres, les relations à Dieu, puis finalement la relation à nous-mêmes. Voilà, une conversion à l'écologie intégrale.
Vous nous parliez de questions. Quelles étaient ces questions ?
D'abord, on s'est dit, si on veut une conversion écologique, on n'a pas envie d'être des écolos qui sont habillés en moines. C'est pas ça. Mais on veut être des moines. Et parce qu'on est moine, on est attentif aux relations, à la nature, avec les autres, etc. Donc, on s'est dit que notre conversion écologique, elle doit nous renvoyer à notre vocation monastique. Elle doit nous ancrer davantage dans notre vocation monastique. Donc, la première question qu'on s'est posée, pourquoi je suis devenu moine ? Pourquoi je suis resté moine ? Qu'est-ce qui m'a aidé à rester moine malgré les moments de crise, les moments de difficulté qu'on a tous vécu ? Pourquoi j'ai choisi de venir à Maïlis plutôt qu'ailleurs ? Donc voilà, on s'est un peu redit un peu chacun ceci, de façon à nous réenraciner sur notre appel monastique. Ensuite, on s'est posé une deuxième question. Dans la manière de vivre notre vie monastique aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui nous donne vie ? Qu'est-ce qui nous dynamise la communauté ? Qu'est-ce qui est bon, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, qu'on va pouvoir développer pour aller ? Et puis deuxième question, à quel défi on va être affronté dans les années qui viennent ? Voilà, et donc face à ça, on a élaboré toute une liste d'une quinzaine de questions. Et les coachs nous ont dit, ben voilà, vous allez en choisir trois, et sur lesquelles on va s'y attacher en priorité. Voilà. Donc la première question, c'était l'équilibre de vie, travail, prière, détente, vie commune. Voilà. On avait l'impression que ce n'était pas très bien équilibré, qu'on se donnait trop au travail, que la prière commençait à être rognée. Donc il y avait des choses à remettre en place. Deuxième question, comment améliorer la communication entre nous ? Parce qu'on s'en rendait compte qu'il y avait des difficultés de communication. Voilà, donc deuxième grosse question, urgence. Et puis il y en avait une troisième, parce qu'on s'était trop ouvert à l'accueil des passagers, des SDF, on s'investit, c'est trop là-dedans, et ça nous sortait de notre vie monastique. Il fallait qu'on remette un peu un protocole pour savoir mieux gérer, accueillir, oui, mais pas se laisser trop manger, trop attirer hors du monastère. Voilà, donc ça a été les premières questions. Donc on a traité d'abord la communication, et puis ensuite l'équilibre de vie. Maintenant, on est en train de réfléchir sur le sens de la clôture. Qu'est-ce que ça veut dire et comment la penser, parce qu'on n'a pas envie d'être enfermé sur une île déserte au milieu de nulle part. On a envie d'avoir des relations avec l'extérieur, puis ça nous fait du bien. Mais en même temps, on se rend compte qu'il faut qu'on reste pleinement moine. Donc, il faut peut-être qu'on détermine des zones où il y a une vraie clôture qui soit uniquement pour les moines. Parce que là, on vit au milieu du village. Hein. C'était des prêtres missionnaires diocésains qui étaient avant nous. Donc, on est au milieu du village. Donc, on se dit, il y a des zones qui doivent être typiquement pour les moines. D'autres zones qui sont typiquement pour les autres. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un écotone. C'est une zone, au point de vue écologie, l'écotone, c'est une zone entre deux écosystèmes. Vous prenez un écosystème, une forêt, qui va marcher à sa manière, avec sa végétation, ses animaux, etc. Dans la forêt, vous mettez un autre écosystème, un grand étang, comme ça. Donc, il va y avoir des plantes aquatiques, il va y avoir peut-être des poissons, mais des moustiques, des grenouilles, des trucs comme ça. Et on s'aperçoit qu'à la frontière entre ces deux écosystèmes, ben, il y a beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Donc, ça suscite la vie. Donc, pour nous, ça va être pareil. Si les moines ont leur écosystème monastique bien défendu, les autres, leur écosystème laïque bien défendu, ben, entre les deux, le contact entre les deux peut être très fécond pour tout le monde. Donc, prévoir des zones où il puisse y avoir contact entre les hôtes et les moines, mais chacun restant soi-même. Quoi. Voilà, donc là, par exemple, de venir travailler au potager. Voilà, on accueille des gens qui viennent travailler au potager ou travailler dans les travaux manuels de bricolage, etc. On accueille des gens comme ça. Donc, on est en train de repenser un peu de déterminer des zones ou des moments où les hôtes vont pouvoir venir travailler avec les moines, mais tout en restant chacun un peu ce qu'il est.
Alors, frère François, vous souhaitiez revenir sur, pour terminer cette interview, sur la vie commune ici à l'abbaye Notre-Dame de Maïlis.
Oui, parce que c'est très important. Le moine, c'est pas quelqu'un qui vit en solitaire, c'est quelqu'un qui vit en retrait, oui, mais qui vit en communauté. Pourquoi en communauté ? Parce que c'est là qu'on vérifie qu'on est vraiment branché sur Dieu. C'est-à-dire, si on est vraiment branché sur Dieu, ben, les relations horizontales entre frères vont être nourries par l'amour que je reçois de Dieu. Et donc, elles doivent être plus respectueuses, elles doivent être plus paisibles que simplement se frotter comme on se frotte au travail, comme on se frotte dans la vie sociale ou je ne sais où. En fait, la vie commune au monastère, c'est l'amour que je reçois de Dieu, que nous recevons de Dieu, nous essayons de le partager entre nous. L'amour qu'on reçoit de Dieu, ça s'appelle l'agapé, en termes techniques, hein, c'est la charité, mais bien mieux, c'est l'agapé. Donc l'agapé que nous recevons, ben, nous essayons de le partager entre nous, et puis de le partager un peu avec ceux qui entourent le monastère, etc. Et donc j'ai un peu l'impression que Saint Benoît, il a voulu nous inciter à créer des pôles où nous essayons de vivre de l'agapé. Donc de recevoir l'amour de Dieu, d'où la nécessité d'un lien à Dieu qui soit fort, mais pour le partager entre nous et nous aimer de l'amour que nous recevons de Dieu. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce qu'on devrait essayer de vivre en famille aussi, hein, ou dans le monde, mais c'est pas toujours facile parce que on s'agresse mutuellement dans les difficultés de la vie quotidienne. En communauté, on peut davantage essayer d'être sans barrières les uns avec les autres, sans trop de protection, et de s'aimer d'une manière peut-être plus respectueuse. Mais c'est loin d'être parfait, mais c'est vers ça qu'on tend, quoi.
Merci frère François de nous avoir accueillis ici à l'abbaye Notre-Dame de Maïlis, dans le diocèse d'Aire et de Dax. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Merci.
Et bonne journée à chacun, à tous et toutes.